Le petit café de campagne. Autrefois réservé aux hommes, le café était un lieu de convivialité au cœur du village. Majoritairement des habitués qui venaient au café pour se rencontrer après le travail ou des gens de passage les jours de fête et de marché. Le comptoir. C'était la pièce maîtresse réalisée sur mesure par des artisans locaux. Dans une épicerie buvette de village, on se contentait d'un banal comptoir de bois, sans équipement particulier, car l'épicière faisait la vaisselle dans sa cuisine ou dans une arrière-salle. On puisait l'eau dans un baquet, puis on la stockait dans un réservoir. L'absinthe. Parmi les cafetières, tasses, verres, bouteilles et carafes, on remarque sur une table la belle fontaine à eau. Elle faisait partie du rituel de l'absinthe. Après avoir versé une dose d'absinthe dans le verre, on plaçait par-dessus la cuillère percée et le sucre. Il ne restait plus qu'à ouvrir un petit robinet de la fontaine et laisser couler l'eau fraîche, goutte à goutte, faisant fondre le sucre. Tout cela se mélangeait dans le verre pour diluer cet alcool fort, 70 degrés tout de même, et en atténuer l'amertume. L'absinthe est connue depuis l'Antiquité pour ses qualités antiseptiques, diurétiques et vermifuges. C'est le docteur ordinaire qui l'a popularisée et l'a rendue plus buvable en la mélangeant avec de l'anis, du fenouil et de l'eau-de-vie. Il colora son élixir en verre. La recette est vendue à la famille Pernod, qui en 1805 installe une usine à Pontarlier. C'est après 1830, pendant la conquête de l'Algérie, que les soldats ont pris l'habitude d'en mélanger à l'eau pour lutter contre la dysenterie et d'autres maladies. La bourgeoisie, alors admirative des militaires, se met à l'absinthe, puis les artistes, qui y trouvent une source d'inspiration. Avec la multiplication des distilleries, l'absinthe est devenue bon marché. Et vers 1870, la classe ouvrière la consomme au détriment du vin. C'est le moins cher des apéritifs, 15 centimes de francs le verre pour un salaire moyen de 3 francs par jour. Elle fut interdite en 1815 pour des raisons médicales. On disait qu'elle entraînait des troubles psychiques graves, pouvant entraîner la folie. Les Français se tournent alors vers d'autres apéritifs et liqueurs anisées. Le pastis, un succès d'année, commence sa carrière à Marseille. Depuis 1988, elle est de nouveau autorisée par décret. Il faudra attendre 1999 pour qu'une absinthe française voie le jour. La dénomination absinthe, elle, ne fut autorisée qu'à partir de 2011. Dans la région, la distillerie Combier, à Saumur, en produit de nouveau. L'eau de Sels, une autre boisson emblématique des bistrots, et ses siphons. On appelle eau de Sels la plupart des eaux gazeuses recréées par des procédés chimiques artificiels, notamment à l'aide de bicarbonate de soude et d'acide tartrique. Elle fut d'abord considérée comme un remède et exclusivement vendue en pharmacie. Utilisée dans un siphon avec un bec verseur très long, elle faisait l'effet d'un pulvérisateur et aidait à soigner les angines. Les siphons colorés contenant de l'eau gazeuse sous pression étaient courants dans les débits de boissons. Ils ont pris des formes différentes suivant les époques, entourés d'un tressage en vannerie vers 1900 ou en verre coloré. Les siphons bleus sont plus récents, 1920-1950, à l'usage des cafetiers et ils étaient remplis régulièrement par les limonadiers. L'âge d'or de la carafe d'eau de Sels dans les cafés se situe entre 1910 et 1935. C'est alors un service gratuit mis à disposition des consommateurs par les cafetiers, tout comme les allumettes. Ce service est assez frais. En 1900, faire recharger une bouteille lui coûte 5 francs. Dans les années 1930, cela coûte 40 francs. Une bouteille neuve coûtait 500 francs. Vers 1950, peu à peu, le siphon disparaît. Trop de risques d'explosion, des batailles avec le jet du siphon, la lourdeur du système de consigne et du remplissage en usine. Puis, peu à peu, les eaux gazeuses en bouteille et les toniques se sont substituées à cette eau. Les autres boissons. Autrefois, avant-guerre, les gens buvaient surtout du vin. Il y avait très peu de bière et peu de soda. On arrosait alors le café d'une rasade de rhum negrita ou d'eau-de-vie de pays. On servait des rouges, des petits blancs ou blancs limés, c'est-à-dire du vin blanc et de la limonade, des liqueurs ou des apéritifs toniques et revigorants, alors à la mode, tels que Dubonnet, le Génial ou encore la Suze. Sans oublier nos bons produits d'Anjou, les vins pétillants de Saumur, les différents coteaux, qu'ils soient du Layon ou de l'Aubance, mais aussi le Guignolet, à base de cerises, ou encore le Cointreau et le triple sec Combier, à base d'oranges amères. Les objets du bistrot. Apportez-moi la note, s'il vous plaît. Le prix de la consommation était inscrit directement sur des soucoupes en faïence apportées avec la boisson. Une personne passant beaucoup de temps au bistrot voyait à côté de lui les soucoupes s'empiler. C'est un pilier de bistrot. Petite astuce de garçon de café. La coupelle était retournée lorsque le client avait réglé. Les services se composent des verres absinthe, des traditionnels verres évasés, les plus grands pour les apéritifs, les plus petits pour les liqueurs et alcools forts, des verres à vin, petits ballons ou en forme allongée, ou encore des chopes à bière, souvent en terre. Avec l'essor de la réclame fin 19e, les producteurs de boissons utilisent tous les objets visibles et utiles dans les cafés pour faire leur promotion. Tire-bouchons, plateaux, cendriers, tasses, carafes, tapis de jeu, éventails, tout était bon pour la réclame. En Anjou. La plupart de ces objets furent retrouvés dans une épicerie buvette à la Salle de Vie dans le Maine-et-Loire. Ce commerce fut tenu jusqu'en 1983.